Ceci est un balado du Centre national des arts. Consultez d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène au baladocna.ca ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts.
Ici Julien Morissette. Vous écoutez Plus que du théâtre.
Attendez que je tire mes souliers. Une balle dans le genou. Sachez que je préfère rester debout.
Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Sébastien Ricard, Brigitte Hankins et Denis Plante dans le cadre du spectacle La Bibliothèque interdite, une œuvre de théâtre musical inspirée de l'univers de Borges.
Est-ce qu'on peut parler des tout débuts du projet de La Bibliothèque interdite?
Bien, ça a commencé par une rencontre. J'ai été invité par les Violons du Roi à faire les arrangements de musique qui allait accompagner une lecture d'œuvres de Borges. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, Sébastien pour la première fois. Et dans le cadre de ce spectacle-là, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit une petite scénette qui ouvrait le spectacle. C'était tout simple, peut-être une page de texte. J'avais donné ça comme ça, juste avant de rentrer en scène. « Allez, apprends ça par cœur et vas-y, on y va! » Et donc, ce qui était un concert est devenu instantanément quelque chose de nouveau, de théâtral, où on allait raconter finalement une histoire. Et ça m'a beaucoup plu et la réaction du public aussi a été immense. Donc j'ai réécrit à Sébastien le lendemain. J'ai dit, écoute, on ne se connaît pas beaucoup, mais il me semble qu'on pourrait faire quelque chose à partir de ce qu'on a fait ici. Puis c'est ainsi que ça a commencé.
Donc, c'est une rencontre vraiment sur scène qui est arrivée comme ça. Sébastien, est-ce que vous connaissiez Denis
non,
avant?
Non, je ne connaissais pas Denis. J'avais été invité donc, par les Violons du Roi en tant que comédien parce que c'était dans ce spectacle-là s'inscrivait dans le Festival de littérature de Québec qui a à chaque année une figure tutélaire, si tu veux, un écrivain ou une écrivaine qui est choisi. Cette année-là, c'était Borges. Et c'est pour ça qu'on m'avait demandé de lire des extraits de nouvelles et des poèmes de Borges dans ce cadre-là. Puis, en fait, ce qui est fascinant, c'est que les musiciens classiques sortent très rarement, finalement, de leur rôle de violoniste ou de contrebassiste. Et puis, de tout d'un coup, de leur demander de participer à quelque chose qui décolle un peu du cadre traditionnel de la représentation musicale, en soi, c'est comme une petite révolution, pratiquement. Donc, c'était un peu ce qu'on avait essayé de faire à ce soir-là. Puis, Denis m'a beaucoup aimé ça, comme il vient de le dire. Puis, ensuite, il a été question de refaire le truc, mais avec l'ensemble de Tango Boréal, donc dans une facture beaucoup plus minimaliste. Mais ce qui était pour moi une proposition lancée comme ça, c'est concrétisé quelques mois plus tard avec la réception de la première mouture de la Bibliothèque interdite qui s'appelait à l'époque Borges ou la Bibliothèque interdite.
Parce qu'il y a un lien assez direct entre Borges et le tango, donc j'imagine que ça explique notamment votre intérêt, Denis, pour le travail de Borges dans ce contexte-là.
Oui, il faut rappeler que Borges, lui, a connu l'époque du tango. Hein, donc, il avait les deux pieds dedans entre 1930 et 1940. Donc, lui, il a grandi en écoutant les premiers tangos, là, un tango qu'on pourrait dire folklorique. Et puis, après son passage en Europe, où il a reçu une éducation, il est revenu à Buenos Aires. Et là, le tango avait beaucoup changé. La société argentine avait beaucoup changé. Pour lui, ça a été très surprenant. Et lui a vraiment gardé un œil nostalgique là, par rapport au tango. Et donc, il a écrit plusieurs... lui, il voulait inscrire, en fait, sa poésie dans dans la grande lignée des poètes nationaux. Et donc, là, d'aller toucher à des thèmes proches de l'identité nationale, ça correspondait un peu à ce qu'il essayait de faire. Donc, il y a plusieurs poèmes où il parle des gauchos, donc les paysans d'Argentine, et plus tard aussi, vraiment à propos du tango lui-même. Beaucoup aussi des mauvais garçons de Buenos Aires. C'est un peu comme ça aussi que le personnage là, que Sébastien Ricard interprète sur scène est né, là, de cette idée l'espèce de, d'homme macho, mais qui est à la fois un poète et qui joue de la guitare et qui se plaint de la société et de la servilité. Donc, c'est toutes ces influences-là là, qui nous ont marqués au départ.
Ben c'est ça. Depuis les tout débuts et maintenant, là, on est fin 2017, le spectacle a pas mal évolué. Il a évolué aussi en public, pas seulement qu'en salle de répétition ou en exploration. Brigitte, vous êtes arrivée quand dans ce processus de création?
Ben, je suis arrivée peut-être 2 ans après la première présentation, à peu près.
Mais elle était là déjà, donc on savait qu'elle avait vu le... Elle avait vu la première expression, en fait.
J'avais vu la première mouture. J'avais été fascinée quand même par l'objet. Puis, tu sais, les aventures m'intéressent tout le temps, en fait. Autre que les aventures, je veux dire, les aventures qui sont originales. Mais évidemment, il faut que ce soit la parole ou les projets d'artistes, en fait, plus que le Cirque du Soleil, mettons. Mais l'acrobatie, mais autre.
Ben, Sébastien est assez acrobate dans ce spectacle-là.
Oui, c'est vrai, mais tu sais... Donc, en fait, ça fait très longtemps que je travaille d'une façon ou d'une autre avec la musique aussi. J'ai toujours aimé ça, faire ça, tu sais. Récemment, avec Chloé Sainte-Marie ou Thomas Hellman. Mais j'aime ça parce qu'aussi, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup moins... On pourrait dire que c'est beaucoup moins lourd que porter une œuvre du départ puis l'amener jusqu'au spectacle. Il y a un côté dans la musique qui s'appartient à lui-même, là, tout ça. Mais j'aimais beaucoup l'univers que Denis proposait. Puis je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel à ça. J'aimais les chansons, je trouvais les chansons incroyables. C'est vrai ce que disait Sébastien, que... Finalement, les musiciens classiques, tu sais, ils travaillent très en solitaire, finalement, parce qu'ils répètent chez eux, ils arrivent au concert, puis embarquent sur une partition et tout ça. Donc, en fait, quand Denis m'a approché, en fait, c'était le but de travailler en collectivité, là, ensemble. Donc, on a travaillé presque 2 semaines, tous les trois, pour essayer de trouver une version qui avait... une cohésion dramaturgique. Bon, tout est relatif. L'été qui nous satisfait. Puis, il y avait aussi sa cohésion auparavant, là, en fait. Elle existait aussi. Mais c'est de simplifier peut-être le travail qu'on a fait ensemble. Je dirais que ça a été vraiment un travail vers l'épuration, la simplicité. C'est ce que j'aime dans ce spectacle. Je le trouve très artisanal dans sa forme aussi, bien qu'il soit extrêmement précis, mais c'est beau, tu sais, une simplicité théâtrale totale. Je veux dire, tout est à vue, il y a 2 chaises avec les accessoires. Puis ça m'enthousiasme, tu sais, le côté à la fois que tu peux aller dans un lyrisme de la parole, de la chanson, parce que les chansons sont incroyables. Elles sont extrêmement sophistiquées, même si ça paraît pas. Puis elles sont très difficiles à chanter. Je sais pas comment Sébastien fait pour le faire, mais bon, chacun ses talents. Puis, tu sais, c'est magnifique de pouvoir faire ça tout en parlant de littérature, tout en faisant plein de références à des choses que les gens ne connaissent pas forcément et des références livresques, de culture, en fait, on pourrait dire. Mais avec un ton qui est à la fois désinvolte, ironique et tragique à la fois. Donc, tu sais, essayer de trouver une sorte de verticalité dans quelque chose qui en même temps s'échappe constamment. Fait que, moi, j'adore ce spectacle.
Ben oui, le résultat est une forme assez éclatée. On est dans du théâtre musical, mais quand même, on parlait des musiciens classiques qui sont sortis peut-être de leurs réflexes. Peut-être même chose pour vous, Sébastien. Il y a quelque chose de différent dans cette œuvre-là. C'est pas facile.
Ouais, Sébastien, il est plus habitué à naviguer dans toutes sortes de...
Ouais.
Tu sais, quand même.
Ben, en fait, je fais partie d'un groupe de musique depuis longtemps. Puis en fait, ce que je disais des musiciens classiques, je l'avais déjà vérifié avec Loco, parce qu'on a souvent fait des spectacles avec des ensembles classiques. Puis si on leur demandait, par exemple, de marquer la mesure, toute la section des violons avec leur archet, puis de battre la mesure à manière un peu hip-hop, c'était comme tellement... On les sortait de quelque chose, mais en même temps, c'était tout le temps de remarquer aussi qu'ils adoraient faire ça, tu sais. Donc, Il y a ça, mais moi aussi, en fait, moi aussi, j'étais déstabilisé par cette expérience-là, mais c'est ce qu'on cherche au fond, hein. On veut être dans des nouveaux contextes, on veut se mettre au défi, puis ça en était vraiment de bonne taille. Puis d'ailleurs, le fameux conseil qui est rarement respecté de jamais prendre le public pour des niaiseux, dans ce cas-ci, on l'a appliqué à la lettre. Moi, j'étais difficilement convaincu que les gens suivraient parce qu'il y a une telle abondance de références à la mythologie grecque, à la littérature, à des connaissances finalement qui sont réservées à très peu de gens habituellement, que je me disais, mon Dieu, on va perdre. Puis non, finalement, on l'a encore vérifié hier avec un public de jeunes gens. Et on avait devant nous un parterre silencieux du début jusqu'à la fin du spectacle qui, comme on le fait lorsqu'on lit à 13 ans un grand roman français et qu'on n'en comprend pas la moitié, mais qu'on se rend compte bien, malgré nous, que ça a fait son chemin et qu'on retombe sur cette œuvre-là 10 ans plus tard, puis on est fasciné de voir à quel point, finalement, ces références-là qui nous semblaient inaccessibles, bien, ont fait leur travail puis qu'elles nous ont nourris. Donc, je pense que la culture, on a souvent l'impression qu'il faut qu'elle coïncide totalement avec l'expérience des gens ou... Et c'est ça. En tout cas, cette pièce-là, à mon avis, est tout à fait dans le sens contraire et je pense qu'elle prouve que c'est possible. Tu sais.
Je trouve ça intéressant, l'idée sur le public. Est-ce qu'on conçoit notre public maintenant comme étant trop paresseux? Parce qu'on dit que c'était peut-être trop chargé de références ou de contenu, mais là, est-ce qu'on veut plutôt donner, je ne sais pas, trop le prendre par la main, finalement? Et est-ce qu'on ose assez encore?
Moi personnellement, en tout cas, j'ai une foi, j'ai une grande foi dans le public. Là. J'ai toujours eu ça, puis j'ai jamais cru. Ben, peut-être que oui, certaines références échappent, puis alors...
Est-ce que c'est grave?
C'est pas grave. Non, moi, je lis un livre d'une auteure autrichienne, puis je suis obligée de regarder dans le dictionnaire, puis c'est correct aussi, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout comprendre. De toute façon, on comprend les choses de façon différente à des âges de la vie. T'sais. Je me rappelle avoir lu L'Ombilique des Limbes d'Antonin Artaud à 14 ans, puis j'ai dû en comprendre que 10%, mais... La compréhension, elle n'est pas juste intellectuelle, elle n'est pas juste du savoir. Bon, c'est vrai que parfois, les gens ont plus de difficultés à s'abandonner à des œuvres poétiques ou des œuvres plus abstraites. Tu sais, ils aiment qu'il y ait un fil narratif, souvent. Je remarque ça, en tout cas ici, ça me frappe. Mais sinon, le public, il est prêt à absorber tellement de choses. Mais tu sais, il faut que ça soit fait avec générosité aussi, pas avec condescendance ni surplombance. C'est-à-dire, c'est sûr que si tu te mets en train de dire « Bon, vous connaissez pas ça, mais moi, je connais. » Mais si, sinon, tu offres quelque chose comme c'est fait sur scène, avec sa part qui reste mystérieuse, mais c'est le cas des grandes œuvres aussi, elles conservent leur part de mystère tout le temps, donc... Je sais pas. Moi, je pense pas que le public est si paresseux, mais je pense que, par contre, les producteurs ou les gens qui sont chargés de programmation, parfois, ont cette espèce de mépris du public, en fait. Ils pensent que le public va pas comprendre, ou le public est pas capable. Mais je pense que les gens se connectent à toutes sortes d'endroits, à la tête, au cœur, aux émotions... aux pulsions.
Ouais, moi, je seconde vraiment Brigitte et j'y ai beaucoup pensé en fait en écrivant le livret. Puis vraiment, une des choses que je voulais pas faire, c'est justement d'avoir un œil condescendant. Donc, on parle là, de sujets graves, hein, parce qu'on parle de dictature, mais on parle même de viol. Et jamais on le fait d'un point de vue moral. Donc, les choses se passent, elles arrivent, on les voit, on entend parler. Mais c'est à chacun de se positionner par rapport à ces enjeux-là. Nous, on ne dit pas qu'il faut le faire de cette façon-là ou de cette façon-là. Nous, on donne ce qui me semble être des clés humanistes de le faire. Dans la pièce, la pièce est traversée pour moi par deux thèmes, le courage, donc c'est notre poète qui est enfermé par un État totalitaire. Finalement, on lui donne le choix, soit que tu deviens un traître, tu trahis tes amis, ou tu ne nous dis rien, mais tu termines ta vie. Donc, il est devant ce choix-là qui est difficile et que dans des moments politiques ultimes, beaucoup de gens devront un jour le faire et beaucoup de gens dans le passé l'ont fait pour nous garantir l'état de droit dans lequel maintenant on vit. Donc, pour moi, c'était... Donc, ça, c'est un des thèmes, le courage. Et l'autre thème, ben, c'est l'amour, hein, parce que ce poète-là, il est vraiment en amour. Donc, il y a une blonde, il en parle. Quand il en parle, la scène devient lumineuse. Et il est aussi vraisemblablement amoureux de la littérature, de la mythologie grecque. Et même ça, je pense qu'il arrive à transmettre un petit peu sa passion pour ces sujets-là.
Parce que c'est un spectacle sur la création aussi, sur la création littéraire, mais sur la création en général. Je trouve que ça parle de la fabrique de l'art, en quelque sorte. Même, c'est pas direct comme ça, mais tout dans ce spectacle parle de l'imagination.
Oui, de l'imagination, de l'importance de rêver et du rôle du poète ou de l'écrivain.
Puis de la transformation, tu sais, du quotidien ou de la sublimation du quotidien dans l'œuvre, en fait, aussi de l'investissement de l'artiste dans l'œuvre, de la dissolution de l'artiste dans l'œuvre, de sa perte parfois de contrôle ou de. Et avec aussi les douleurs psychiques qui vont de pair, là, on le sait. Là. L'écriture, c'est pas une chose aisée et c'est pas une chose. Comment je dirais, qui est. Forcément sécurisante. Mais je trouve que c'est présent dans tout ça parce qu'il y a toute cette espèce de glissement dans la folie progressive. Puis comme on disait, peut-être que l'écrivain est prisonnier de son œuvre, en fait. Par exemple, tu penses à Proust, c'était vraiment ça, là, dans son lit, complètement envahi par tout son système, au point que quand il le comprend, il recommence à écrire au départ... La recherche du temps perdu, parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il était en train de faire. Puis il est devenu complètement aliéné, comme dans un labyrinthe. Dans tout ça. Il n'a même pas réussi à aller jusqu'au bout, je pense, avant sa mort. Mais... Donc, c'est très beau, je trouve. Mais c'est en filigrane, c'est pas direct, c'est pas souligné, mais c'est présent. Je pense que les gens le sentent, ça aussi. Puis peut-être aussi à cause du côté artisanal du spectacle, c'est le fait que tout est à vue, c'est simple.
Ah oui, on voit les procédés, le bruitage sur scène aussi, c'est fait ça. Avec la contrebasse, les instruments.
Oui, c'est ça. Donc, c'est comme le théâtre pour l'enfance, là, dans le bon sens du mot, là, tu sais, quelque chose qui... C'est la base du théâtre aussi, c'est fait à vue, on fait des bruits, puis on y croit. Puis, on avait beaucoup discuté de ça au cours du travail, tu sais, en disant, est-ce qu'il faut se retourner vers la contrebasse? Mais non, parce que le public, il comprend que c'est l'inspecteur ou je sais pas quoi. Mais c'est ça, je trouve que c'est la beauté de la fabrique de l'art. Ouais, parce que dans le fond, c'est ça.
Parce qu'on parle d'un poète, mais finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de parler de poésie, dans le sens d'avoir un regard émerveillé sur la création. Donc, notre poète, lui, c'est comme ça qu'il voit le monde. Quand il est dans ses souvenirs, il est émerveillé. Et c'est cet émerveillement-là qui, parfois, ça s'étiole dans le monde contemporain et qu'il faut retrouver, puis je pense... Le théâtre, c'est vraiment un endroit où on peut proposer aux gens de retrouver l'émerveillement.
Aie pitié de moi, dépose ce caillou, approche sans effroi, je suis à genoux. Vois mes mains brûlées, mon corps disloqué, vas-tu lapider un mendiant blessé si tu as du cœur.
Parlons de Borges en tant que tel. Est-ce que les gens le connaissent bien ici lorsque l'œuvre a été présentée, lorsqu'on a dit on va faire cette œuvre, on tourne, on fait autant avec cette matière brute? Est-ce que les gens connaissent bien son œuvre?
Ben, tantôt, je disais que le spectacle s'appelait Borges et la bibliothèque interdite. Au début, Denis a supprimé le Borges parce que les ayants droit de l'œuvre trouvait que, je pense, que c'est ça qui avait certains tableaux qui étaient trop...
On abusait. Ben, ils ne savaient pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Là. Mais juste d'utiliser le mot Borges...
C'était déjà trop.
C'était comme une menace à la succession ou à l'œuvre.
Mais du coup, en fait, c'est un spectacle qui n'est pas...
littéralement...
Attaché à Borges. On n'est pas obligé du tout d'avoir lu l'œuvre. Mais c'est vraiment une pièce qui est très fidèle, je trouve, moi, à ce que je connais de l'auteur. Et ça, je trouve que c'est un tour de force parce que vraiment, c'est pas une œuvre facile et tout. Et pour quelqu'un qui veut s'introduire, en tout cas, découvrir un peu ce que ça peut être, cette œuvre si particulière, je trouve que la pièce est une bonne façon de donner le goût d'aller en savoir plus. Mais ça, c'est Denis qui pourrait peut-être en parler plus. Parce que
objectivement, moi, en tant que tanguero, là, je connaissais Borges parce qu'il a écrit, des poèmes en fait, qui ont été mis en musique par Piazzolla. Donc, ils se sont retrouvés là, dans les répertoires. Certaines sont devenues même des chansons assez populaires dans les années 70 en Argentine. Mais moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Donc, pour moi, ça a été une découverte. Là, quand on est tombé, en faisant toute la recherche pour le spectacle, moi et Sébastien, pendant 2 ans, finalement, on s'envoyait, ah, tu lis ça, regarde celui-ci, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc, on a décortiqué son œuvre avant même de commencer à avoir un spectacle. Donc, c'est sûr que ces bonnes idées, on va dire, ou en tout cas, la poésie, le regard sur l'Argentine, tout ça que lui essayait de faire à travers certaines de ses nouvelles, on a essayé de les importer à notre façon dans le spectacle.
Mais je dirais que dans par exemple, l'exemple le plus frappant pour moi, c'est que, par exemple, que Denis, en tant que musicien, vienne au début du spectacle présenter le spectacle et qu'il soit sur scène et retourne à son instrument et devienne partie prenante de cette œuvre qu'il vient de présenter et qui, à la fin, c'est celui qui abat le... tu sais, ça, c'est totalement borgésien. Okay? Puis c'est très simple. Puis tu sais quoi? C'est arrivé par hasard. Parce que la première représentation à l'Anglicane, celle à laquelle Brigitte a assisté, je me souviens, moi, épouvanté. Je sais que ça vous fait... Peut-être c'est pénible d'avoir répété ça, mais je trouve que c'est très intéressant de le dire. C'est qu'à la première, épouvanté par le peu de répétitions qu'on avait fait avant de présenter ce spectacle-là. Parce qu'encore une fois, musiciens classiques et acteurs et gens de théâtre ont des manières très différentes d'aborder la scène. Donc, il y avait déjà là... Je me souviens d'avoir dit le jour de la première à Denis, j'ai dit, écoute, là, ça sera pas possible, on est vraiment pas prêt pour présenter ce spectacle-là pour lequel on avait pourtant fait plein d'entrevues et tout. Et donc, j'ai dit à Denis, je veux que tu présentes le spectacle aux gens et que tu dises qu'est-ce qu'il y en est et où est-ce qu'on en est rendu. Et c'est de là qu'est venue cette présentation. Mais moi, j'avais vu Tango Boreal jouer avant. Puis j'ai vu souvent Denis présenter les pièces, puis je trouvais qu'il était vraiment bon à expliquer. J'ai dit, fais ça comme tu faisais, là, ouais, présente la pièce. Et c'est resté, et c'est à mon avis la chose qui est la plus, comment dire, évidemment borgésienne, tu sais. C'est cette espèce de mise en abîme au départ, du musicien Denis Plante qui se nomme comme ça, qui parle de sa copine d'un voyage en Argentine où il se retrouve. Puis là, on glisse dans la fiction, mais très, très littéralement. Et ça, j'ai trouvé ça... Et je me demande si on peut faire ça ailleurs qu'au théâtre, finalement, aussi clairement. Donc ça c'est vraiment assez extraordinaire. Puis...
Ouais, donc, c'est savoureux aussi, parce que c'est fait dans la plus grande simplicité. Mais le public... Tu sais, il sait quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier après, il sait qu'il y a à moitié vrai, à moitié pas vrai. Mmh. Mais il le sent qu'il y a quelque chose de vrai dans ton introduction, quand même.
En fait, personne ne sait qu'est-ce qui est vraiment vrai, je ne l'ai jamais dit.
Non, mais tu sais...
On veut vraiment peut-être ne pas le savoir.
Non, on ne veut pas le savoir. Important. C'est comme l'autofiction, ouais. Tu ne veux pas vraiment savoir qui et tout ça, mais... En même temps, c'est vrai, c'est juste.
Mais ce sont des questions qui reviennent souvent, puis ça, je les entends en entrevue, si on parle d'autofiction. Il y a une fascination à savoir quand même, puis je suis convaincu que les gens hier se posaient la question, et je ne sais pas si ça vous arrive, Denis, si les gens vous demandent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Mais oui, assez systématiquement. Ouais.
Qu'est-ce qu'on répond?
Qu'est-ce qu'on répond? Ouais, ben, j'ai dit, ce que je dis au début, libre à vous de choisir. C'est votre histoire. Maintenant, nous, on a fait notre travail. Maintenant, l'histoire, elle vous appartient. Là. Donc, c'est votre histoire.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que c'est bien qu'il tue son poète à la fin.
Oui, parce qu'il pourrait tout révéler.
mais c'est drôle, parce que bon, Brigitte l'a dit en riant, puis c'est vrai, il y a comme quelque chose dans cette pièce-là aussi qui est formidable, et on nous l'a dit souvent, c'est qu'elle traite, avec un sourire en coin et avec beaucoup de lumière, de quelque chose de très sombre, finalement. Et puis, c'est ce qui est le plus beau, c'est que des gens nous disent « Ah, tu sais, au lieu de nous écraser au sol, c'est une pièce qui nous donne de l'air, de la joie, de la lumière. » Donc, Ça aussi, je trouve que c'est une des tâches du théâtre, à mon sens, et de l'art en général. C'est pas d'essayer d'écraser le monde à terre avec des responsabilités. C'est souvent ce qu'on fait, finalement, en art. Hein. On est culpabilisant. Mm-hmm. C'est pas le cas de cette pièce-là. Elle élève, je trouve.
Pourquoi on est culpabilisant? Pourquoi on est à ce point exigeant avec, dans le travail de création?
Ben moi, j'ai peut-être une piste à ce propos-là, c'est que souvent les créateurs que j'ai rencontrés, et je m'inclus aussi là-dedans, on est des êtres très sensibles. Donc, on reçoit, on va dire, la douleur du monde dans lequel on vit d'une façon plus intense que bien des gens. Et donc, c'est pour ça que souvent, on a envie de crier plus fort, de dénoncer certaines choses qui nous semblent injustes, qui nous semblent intolérables. Mais après ça, je pense qu'après ça, le ton sur lequel on le fait, ben c'est là qu'il faut être délicat. Parce que moi, je suis convaincu que moi, dans ma vie, je préfère suivre quelqu'un qui m'inspire plutôt que quelqu'un qui me dit quoi penser, même si cette personne-là a raison.
J'aime pas les curés. Mais on pourrait dire que la musique aussi joue ce rôle-là. Hein. C'est un petit peu comme ce que tu as dit, ce que vous avez dit tantôt, m'évoque aussi comme des Fortin qui disaient des choses tragiques, mais sur une musique extrêmement entraînante aussi. Puis la musique du tango, la musique argentine ou la musique que tu crées, disons d'inspiration argentine, elle donne le goût de la fête aussi. Donc, c'est beau ce chaud-froid entre un contenu.
Puis on est dans un décalage, parce que souvent, le poète parle de situations qui sont... Puis là, ça, la petite musique part derrière de tango, puis ça comme, ah, voyons, ça donne des frissons.
Mais c'est vrai que...
Par le décalage, justement.
Oui, c'est ça. Puis les gens souvent sortent de là en disant que ça leur a donné de la joie. Donc, la joie avec la torture, c'est
bon. Oui, c'est ça. C'est un paradoxe.
C'est ça.
C'était au temps de la milonga, de la guitare et du couteau. C'était le prince des renégats, le roi de Nabab du tango. En balbanère à son royaume, ses putes après le vélomone. Dans les maisons closes d'Abasto, des lancers et du congresso. Quand va l'époque des chemises brunes.
Je vous pose une question un peu folle. Je vais vous laisser le temps d'une gorgée de café peut-être pour y réfléchir. Mais j'ai envie de savoir de quoi a l'air votre bibliothèque à la maison, votre bibliothèque personnelle, que ce soit dans son contenu, elle est dans quelle pièce, quelle est la forme, comment elle est organisée?
La mienne, elle est dans la pièce principale, puis elle déborde de partout. Là. Il y a des piles de livres partout. En plus, j'ai dessiné une bibliothèque. Je pensais pouvoir mettre tous mes livres dedans, mais évidemment, ça ne les contient pas tous. Mais là, il y a des piles de livres dans tous les bords. Et puis, je ne trouve jamais rien. Fait que j'ai un système de classement très spécial, par auteur, parfois, par genre féministe ou féminin, tout ça. Mais après ça, je cherche continuellement les livres. Puis là, il faut que je monte à une échelle pour les attraper. Je ne les trouve pas. Fait que la plupart du temps, je les rachète.
Oh non, à ce point-là.
Ça m'arrive très, très souvent de racheter un livre que j'ai en 3 exemplaires. Puis là, parce que j'ai trop de livres, là, je les redonne à la librairie Le Port de Tête. Je me départis du tiers. Puis là, évidemment, je me dis, celui-là, je n'ai jamais relu, je peux le donner. Mais là, évidemment, un mois plus tard, c'est celui que je veux. Puis c'est ça, il y en a en bas dans la salle à manger, dans l'espace à vivre, puis il y en a en haut, il y en a partout. Mais j'aime ça, je trouve que c'est beau les livres.
Ouais, Sébastien.
Moi j'habite une maison, puis c'est au premier étage que j'ai mon bureau, qui est une espèce de petite pièce, grand comme une cellule, justement, et qui est aussi comme une cabine de bateau, parce que j'ai des belles vitres qui donnent sur l'extérieur. Puis j'ai fait récemment des petites rénovations, puis j'ai toujours voulu avoir une bibliothèque qui m'entourait complètement, en fait. C'est comme des livres partout, là, dans le dos, sur les côtés, presque sur les plafonds. Je suis en voie de le réussir, mais donc les livres sont tout le temps à portée de main. Je tourne juste le dos, je peux avoir accès à mes livres. Puis ben, la bibliothèque, j'ai une section littérature, une section théâtre, copieuse. J'ai beaucoup de poésie aussi. J'ai de l'essai, beaucoup de livres politiques sur le Québec, évidemment. Beaucoup de livres politiques sur le Québec. Puis j'ai comme le disait Brigitte, moi aussi, je perds des livres, même si la bibliothèque n'est pas si immense que ça, je les retrouve.
Est-ce que vous les faites circuler?
Oui, on s'en prête plein. Hein. Ben, surtout Brigitte. Là.
Moi, je donne les livres. Là, je veux dire, il faut que ça bouge. De temps en temps, ça me prend, puis là, je vais récupérer des livres. Sébastien, on s'échange beaucoup de livres, souvent, mais... Ah oui, il faut que les livres circulent. Là, je veux dire, c'est terrible, sinon. Là.
Oui.
Et Denis?
Moi, j'ai plusieurs bibliothèques. La plus importante, c'est celle qui est la plus proche de mon lit, c'est ma table de chevet, sur laquelle il y a vraiment des piles de livres. Moi, je suis un lecteur très, très méchant avec les livres, en fait. Je griffonne à l'intérieur, je prends des notes, j'arrache des pages quand je les aime.
C'est donner de l'amour, ça, la littérature, c'est pas méchant.
Donc, mais une fois que je les ai lus, les livres, je ne peux plus les donner à personne, en général. Et sinon, depuis que je m'intéresse au théâtre, parce que c'est arrivé un peu d'une façon tardive dans ma vie, donc, j'ai accumulé là, dernièrement là, vraiment... beaucoup de théâtre et de philosophie. Je dirais que c'est les deux sujets là, qui m'interpellent.
Qu'est-ce que le théâtre, cette nouvelle apparition dans votre carrière, change dans la perception de la musique, de la composition, du tango?
Ben, pour moi, c'est une corde de plus à mon arc. Moi, j'étais déjà compositeur et parolier. Et comme compositeur, j'ai déjà un catalogue important d'œuvres qui ont été jouées. Ça fait déjà 20 ans là, que je fais ça. Et quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, bon, là, ce serait le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc là, en travaillant avec Sébastien, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, mais visiblement, il y a des choses que je ne sais pas par rapport au théâtre et à tout ça. Donc, je suis même allé prendre des cours et là, j'ai commencé à acheter des livres vraiment plus fondamentales, des œuvres fondamentales. Beaucoup d'auteurs grecs, en fait. Là. Donc, je suis vraiment parti à zéro, puis peu à peu, je remonte dans le temps, puis un jour, j'ai arrivé à l'époque moderne.
Ben, Denis, c'est un surdoué, il faut dire quand même.
Ben, je suis entouré de surdoués, je suis un peu intimidé aujourd'hui.
Bon, c'est pas mon cas.
Franchement, Brigitte. Je veux citer notre concierge poète dans la pièce qui dit « Autrefois, vous avez raison, les livres n'avaient pas de prix, mais les choses ont changé, inspecteur. Aujourd'hui, les livres ne valent plus grand-chose. En vérité, bientôt, ils auront un prix unique, celui de l'indifférence. »
C'est terrible. Ben, c'est vrai que je me faisais cette réflexion en allant au Salon du Livre, là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de livres. C'est fou, quand même. Puis, dans le fond, je me posais la question, tu sais, il y a plein de monde au Salon du Livre, mais qu'est-ce qu'ils font, juste, là? Non, mais, tu sais, parce que tu vois qu'il y a des fils pour les livres de cuisine ou pour certains auteurs à succès, mais je sais pas, tu sais. En même temps, moi, je crois beaucoup en le pouvoir de la littérature, donc je crois quand même que Ça va demeurer comme le théâtre, en fait, que tout le monde prédisait, dont tout le monde prédisait la fin, parce qu'à l'heure de la technologie, le théâtre, c'est archaïque au possible, là, de mettre du monde sur scène avec des grandes phrases.
Les masques.
Les masques. Mais c'est sûr que ce qui me trouble, c'est la profusion versus... La profusion de livres versus une époque où, visiblement, il n'y a plus de place pour en parler, il n'y a plus de place pour réfléchir aux livres. C'est plutôt ce contraste-là qui me laisse perplexe, mais bon, j'ai foi dans le livre.
Ouais, c'est pas, mais en même temps, la phrase que tu citais, elle est dite comme à peu près toutes les autres, avec un sourire en coin.
Ouais, vraiment. C'est vrai que j'ai pas la même interprétation.
Non, mais les mots quand même traduisent bien cette ironie là, qui est très borgésienne, encore une fois, mais qui est une manière de repousser le moment où il va bien falloir laisser l'inspecteur rentrer dans la bibliothèque interdite. Mais bibliothèque interdite, c'est ça qui est beau. Il y a comme une sorte de besoin d'initiation, hein. On n'arrive pas à la littérature comme on mange une tranche de pain. Tu sais, il y a comme un truc où on parvient à ça. Et moi, je trouve que ça, c'est intact. Et ça, ça disparaîtra jamais. Et c'est ce qui est très beau. Moi, les livres me font encore le même effet. C'est-à-dire un livre... Aller lire un livre, c'est comme... Il y a quelque chose de sacré, presque. Hein. C'est quelque chose qui, pour moi, est intact. Et j'ai des jeunes enfants. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, en leur lisant des histoires, en entrant avec eux là-dedans, en les initiant à ça. C'est vrai, on est distrait par un million d'autres choses aujourd'hui, mais ceux qui le savent, savent bien que c'est un trésor puis qu'il est là. Puis la pièce dit ça, finalement, aussi. Hein. Elle dit, le trésor est là. Vous pouvez passer à côté toute votre vie, mais vous savez qu'il y a un trésor et c'est à vous de trouver le moyen pour y arriver. T'sais. Donc, moi, j'ai beaucoup...
Il faut la carte de membre, c'est ça.
Il faut la carte de membre.
Mais la carte de membre, c'est un peu aussi comme la main qu'on te tend. Parce que, dans le fond, pour, comme tu dis, pour apprécier la littérature, peut-être parfois, ça prend des guides aussi. Là. Bon, je sais pas, dans mon cas, j'ai été éduquée par des professeurs qui... passionnés de littérature, qui m'ont vraiment emmenée dans sur des territoires qui m'étaient inaccessibles, en fait. Puis j'ai l'impression que c'est ça, la carte de membre aussi. C'est, dans le fond, ça commence très jeune par l'amour de quelqu'un pour les mots qui vous est transmis, puis qui vous laisse libre de naviguer là-dedans. Puis, tu sais, ça fait son chemin. Moi, je pense que ce qui est acquis avant 15 ans, même si pendant 10 ans, on est en révolte vis-à-vis de ce contenu, ça ressurgit parce que la vie est longue. Hein. Donc, ouais, c'est...
Et je ne le dis pas par flagornerie, mais quand même, des œuvres comme la Bibliothèque interdite ou le théâtre, finalement, en général, aident à faire cette transmission, j'ai l'impression.
Si c'est le cas, ça serait formidable parce que... Parce que, ben oui, je pense que t'as raison. Il y a quelque chose de tellement aimant dans cette pièce-là qui convient bien, oui, à la transmission, qui est, comme je le disais tout à l'heure, pas culpabilisant. C'est pas comme, hey, il faut que vous lisiez, là. C'est pas ça.
C'est pas édifiant, là.
C'est pas édifiant. C'est aimant. C'est généreux, tu sais, c'est comme... Donc, en ce sens-là, ouais, j'ose croire que oui, en effet, ça peut être une... Tu sais, je pense encore à notre parterre d'étudiants hier. Je me disais, mon Dieu, mais là, je leur parle du Minotaure, de Homère. Je voyais bien qu'ils réagissaient pas comme un public plus averti à certaines blagues et tout. Mais je les voyais, puis quand on a eu la discussion après, qu'ils avaient vraiment aimé le spectacle. Puis, tu sais, ces mots-là vont être associés à quelque chose de doux, de bon, tu sais. Et quand ils vont retomber dessus, ben peut-être que, tu sais, donc...
Le souvenir va être assez positif ou ça s'étampe en quelque sorte dans l'esprit de ces jeunes-là. Ouais. En terminant, est-ce qu'on peut se permettre de rêver à une tournée ou à une suite pour la Bibliothèque interdite, là, si on était dans un monde idéal, où irait ce spectacle?
Ben, dans un monde idéal, il irait partout pour 1000 ans, là. Moi, quand j'ai composé, j'ai pris beaucoup de soin, en fait, pour composer à la fois les chansons et le script, en me disant que peut-être que comme auteur, ça allait être la seule chose que j'allais faire dans ma vie, donc il fallait que ça soit bon. Et fallait que ça ait une...
C'est beaucoup de pression, ça, quand même.
On devrait se dire ça chaque
ouais,
fois.
C'est ça.
Faudrait qu'il y ait une pérennité, donc, à l'œuvre, donc... Là, je pense que nous, on se sent très privilégiés pour le moment d'avoir réussi à l'apporter à beaucoup de public. Et peut-être que dans 100 ans, d'autres artistes vont reprendre le bâton et continuer de parler de cette épopée.
Plus que du théâtre est une série de balados produites par le Théâtre français du Centre national des arts. Les émissions sont enregistrées au studio Hexagone du CNA à Ottawa. À la recherche, Guy Varin. À la technique, Martin Jones. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.
Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladocna@gmail.com. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, consultez le site web baladocna.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.